Nous revoici pour le numéro 2 de Tambouille. Aujourd'hui, pour l'émission, les chefs Adèle Comellas pour la salle de spectacle et Myriam et moi-même, Myriam Roguet, pour la Maison des Arts. L'émission Tambouille, c'est une émission qui va parler de la culture à la sauce du pays de Conches.
The menu, please.
Au menu du jour, alors, on vous a concocté dans nos petites cuisines. Nous avons une biennale d'art plastique à Conches et nous recevrons Christiane Müller pour en parler et dresserons un portrait de cette femme sculpteur. Ensuite, nous parlerons d'Ibris qui sera bientôt sur les planches de la salle de Conches et nous recevrons Laurent Saval qui viendra nous expliquer son projet autour d'Ibris. On ne ratera pas non plus l'immanquable et la ratable de la médiathèque. Et puis l'agenda, le panier du jour. Voilà, un beau menu en perspective. Tout de suite, je passe la parole à Myriam, qui nous a concocté un petit apéro sur la Biennale d'art plastique.
Donc, la Biennale art plastique de Conches est née en 1954 grâce au maire de l'époque, le docteur Paul Guilbeault. C'est une biennale, comme son nom l'indique, c'est une exposition qui a lieu tous les deux ans et elle rassemble des peintres et des sculpteurs, des plasticiens, pendant environ deux mois, tous les printemps.
Et cette année, elle aura lieu de quand à quand ?
Alors, elle a lieu à partir du 7 avril et elle durera jusqu'au 2 juin. Elle rassemble cette année une vingtaine de peintres et 8 sculpteurs, dont une est avec nous aujourd'hui. La biennale a lieu dans la Maison des Arts, sur tout l'étage. Et donc, il y a un agencement où les peintres et les sculpteurs se répondent.
Comment on sélectionne en fait les artistes qui sont présents à la Maison des Arts ?
Alors, les peintres et les sculpteurs sont sélectionnés par les commissaires de l'exposition, donc Gérard Alano et Yvon Neuville. Et donc, ils font ce travail depuis à peu près les années 1970.
D'accord. Et ils vont à la rencontre des artistes et ils proposent à la ville un certain nombre de noms, de travail
Absolument. Donc, dans les peintres et les sculpteurs qui sont exposés, certains sont déjà venus. Donc, c'est une occasion de voir l'évolution. Et d'autres sont des nouveaux venus. Il y a des peintres confirmés, mais il y a aussi des plus jeunes. C'est l'occasion pour eux de montrer leur travail. Mais tous sont des excellents artistes.
Et comment ça peut traverser le temps ? Parce que c'est vrai que c'est une biennale qui a un certain âge on peut toujours renouveler, trouver des nouvelles tendances, des nouveaux artistes.
Oui, absolument. Et puis je pense qu'ils s'aident aussi de des expositions qu'on lui a à Paris ou ailleurs. Il y a tout un réseau et puis ils doivent se fonder aussi sur les magazines pour voir qu'est-ce qui se fait de nouveau, etc.
Comment c'est reçu par les Conchois ?
Je pense que c'est très très bien reçu et d'ailleurs il y a beaucoup de monde lors du vernissage de la biennale et on retrouve ce même monde l'année d'après pour l'exposition des lauréats parce qu'il faut savoir que 4 peintres et 4 sculpteurs sont récompensés d'un prix. Et donc, ils ont l'occasion, l'année d'après, d'exposer en plus grand nombre leurs œuvres.
Oui, ça permet d'avoir une visibilité du monde artistique dans une commune de petite taille, on peut dire. Mmh. Est-ce qu'il y a des visites organisées ? Est-ce que c'est libre ? Comment ça
Alors,
se passe ?
L'entrée est libre, mais il y a sans doute des écoles qui viennent, puisque Gérard Alano, le commissaire de l'exposition, organise des visites avec les écoles de Conches.
D'accord. Bon, mais ça paraît très alléchant, donc on peut pousser la porte pour aller visiter ces artistes. Est-ce que tu as quelques noms à nous donner ou des styles ou fais-nous un petit peu baver sur l'apéro, voilà, de ce qu'on pourrait.
Alors, les peintures comme les sculptures sont à la fois des peintures abstraites ou ils représentent quelques choses. Par exemple, pour les lauréats. Donc, on a Gérard, pour les peintres, on a Gérard Beaujard, Cathy Banville, Jean-Louis Lemoal et Sylvie Demey. Et donc, la plupart sont dans un style abstrait. Certains sont plutôt, on va dire, dans le domaine végétal. Par exemple, Cathy Banville, on est vraiment dans des couleurs pastel, blanc, vert, avec une technique où la peinture est en relief.
D'accord.
Il y a différentes couches et en fait, là, quand on voit la peinture, elle est en relief. Par contre, Jean-Louis Lemoal, on sera plutôt dans des formes géométriques avec des amas de couleurs assez contrastées. Et pour les sculpteurs, on a Patrick Adam, Stéphane Fox, Serge Garnieri et Christiane Muller, donc qui parlera de son travail après. Donc là, c'est pareil, on a des sculptures pour Stéphane Fox, par exemple. Il va travailler le granit, la pierre de Caen et le granit, là, et j'ai oublié.
Oui, il y a une grande diversité en tous les cas.
Oui, il y a une grande diversité.
Est-ce que c'est le propre d'une biennale ? C'est effectivement, du coup, d'avoir le plus grand choix possible, à la fois en technique, ou est-ce que c'est un des critères d'être, ou c'est le hasard qui fait qu'on a plusieurs choses très différentes cette année ?
Non, c'est vraiment une volonté. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques des biennales, de faire vraiment un panorama de l'art aujourd'hui, vraiment l'éclectisme, pour que, le public y trouve son compte, quels que soient ses goûts et ses aspirations, et ben il trouvera toujours quelque chose qui lui plaira.
Oui, c'est un moment de découverte. De toute façon, la découverte, c'est toujours un plaisir. Bon, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Myriam, sur cette biennale ? Ou est-ce qu'on lance
Alors, les dates, donc elle a commencé le 7 avril et elle se déroule jusqu'au 2 juin. Elle est visible toutes les après-midi de 14h à 17h30 et le samedi matin, on peut aussi la voir de 9h30 à 12h30.
Et c'est à la Maison des Arts et n'hésitez pas à franchir la porte.
Until the end, hello. night sound. It's this dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain.
Nous venons d'écouter Smell Like Teen Spirit, reprise de Nirvana par Chaka Ponk. Juste pour un tout petit mot pour le pourquoi du comment de ce choix. J'ai découvert cette reprise lors du 25e anniversaire de l'émission Taratata et elle m'a vraiment scotchée. Et j'ai eu la chance de l'écouter en live il y a une dizaine de jours. Et ça a été vraiment un super moment parce qu'il faut savoir que, entre autres, que Chaka Ponk est actuellement en tournée. Donc il vient terminer la tournée des Zéniths et il débute la tournée des festivals. Donc on pourra le retrouver dans toute la France pendant tout l'été. Et maintenant, le plat du jour.
À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger,
Christiane Muller.
Bonjour Christiane.
Bonjour.
Alors, une première question, quel est votre parcours ?
Alors voilà, ça va être un peu long, je vais essayer d'être bref. Donc, je suis née en Allemagne, je suis donc allemande. Et j'ai fait des études après le baccalauréat, d'abord de sculpture sur bois. Donc c'était un parcours assez classique. Après 3 ans d'école, voilà, c'était des classes. On avait le choix ou de commencer le métier en tant qu'artisan. Moi, je voyais que ça ne me disait pas trop de sculpter des saintons, des petites images pour mettre à la maison. Donc, j'ai opté pour enchaîner sur des beaux-arts. Et ce qui me tentait beaucoup, c'était de éventuellement tenter les beaux-arts de Paris, que j'ai eu la chance d'intégrer dans l'atelier de sculpture de Jean Cardo. Et donc, j'ai fait pendant 5 ans mes études là-bas. Et voilà, j'étais diplômée. Et puis, je suis toujours restée en France parce qu'on me posait la question si j'allais retourner dans mon pays. Non, j'avais déjà bien goûté au pays, je me sentais bien. Et avec les contacts et la vie, ça fait que finalement, on reste. Voilà.
Et après ces beaux-arts, donc, comment on vit tout de suite de cette formation de sculpteur ?
Alors, en tant que sculpteur, c'est très difficile parce qu'il faut se faire, bien sûr, comme on dit. Moi, j'ai eu l'occasion, j'étais toujours sur Paris, de commencer l'enseignement dans les ateliers de beaux-arts de Paris. Donc ça m'a bien formé aussi le regard non des autres, mais aussi vis-à-vis de moi-même. Ça a vraiment affirmé mes choix et voilà, j'ai pu continuer parallèle mon travail de sculpteur et j'ai commencé surtout à faire du dessin. Parce qu'à Paris, vous savez, on n'a pas trop de place pour faire la sculpture. Ça fait du bruit, ça fait de la poussière. Donc le dessin, il commençait à être très intéressant pour moi.
C'est comme ça que... C'est pour l'espace que vous arrivez en Normandie ?
Ça peut être un très bon argument. Mais je suis vraiment quelqu'un qui est un peu entre ville et... C'est vrai, il me faut de l'espace pour sculpter dans mon jardin. Donc, je fais de végétaux. Et ça me va tout à fait pour créer, pour voilà, trouver même des fois des bouts de bois complètement farfelus qui sont intégrés après dans mes créations.
Oui, parce qu'il faut quand même dire que vous continuez à sculpter le bois, à lui donner une vie, une vision. Ça reste une matière... privilégié que vous domptez toujours aujourd'hui ?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, je suis quand même, après avoir tenté, et c'est des expéditions assez intéressantes, la pierre, la taille de pierre, taille directe. On a fait du métal aussi, j'ai fait beaucoup de modelage. Voilà, donc je suis revenue un peu à mon premier amour, ce qui est le bois. Et ça se confirme vraiment. Le bois, c'est une matière qui, pour moi, a cette capacité de prendre la forme qu'on souhaite et de proposer déjà, comme je disais, je trouve des formes intéressantes dans la nature, proposer quelque chose que j'aime bien faire face et intégrer, transformer, etc. Je joue beaucoup avec des éléments que je trouve.
D'accord. Est-ce que aujourd'hui vous trouvez que la place d'une femme sculpteur a toujours une place ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui encore de se trouver une place, une ligne dans ce travail ?
Alors, être femme et sculpteur, des fois, ça peut surprendre. Les gens, ils pensent qu'il faut être très fort, avoir des muscles pour être sculpteur. Alors, je les rassure tout de suite parce que je donne des cours aussi à la Maison des Arts des Vevreux et je dis aux élèves ou aux futurs élèves, vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir de muscles. Là où il faut être fort, c'est plutôt dans la tête. Parce que la sculpture, c'est quelque chose qui est dans la projection, il ne faut pas être impatient et pouvoir dans la durée adhérer à quelque chose qui est évolutif. C'est pour ça, c'est quelque chose vraiment, il ne faut pas attendre tout de suite un résultat. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour revenir donc, sur la condition de la femme artiste. J'ai commencé le dessin aussi parce que je trouvais la sculpture, c'était trop long. Et je voulais un résultat beaucoup plus rapidement. C'est pas tout à fait le cas parce que les dessins que je fais, ils sont presque aussi compliqués et longs maintenant que mes sculptures. Donc me voilà bien embêtée. C'est pas plus rapide, mais c'est une autre façon d'aborder un sujet, donc toujours le végétal, le cellulaire, et de faire mes recherches. Voilà, parce que je zappe un peu sur différents supports et l'un nourrit l'autre. Et voilà, donc cet échange, il est très très fertile. Alors voilà, revenir sur la femme artiste, donc à part être fort, il faut quand même dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes artistes et encore moins de femmes sculpteurs, voilà, je pense dans le monde. D'ailleurs, on a fait une exposition sur la condition de la femme en novembre dernier à Évreux, avec Claire Cachelot, avec qui j'ai aussi un projet très intéressant, donc une autre femme. On a un projet qui s'appelle Trésor caché, donc qui est une création entre art et bijoux. Donc voilà, on combine nos deux talents, donc deux femmes qui se retrouvent. Mais après, voilà, les femmes n'existent pas trop, et c'est vrai, il faut presque deux fois s'affirmer, rappeler, montrer qu'on est présent, parce que quand on entend sculpture, on ne pense pas forcément aux femmes. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la serre d'Évreux ? Est-ce que je crois que vous avez œuvré, puisque c'est voilà les sorties et pouvoir profiter aussi des sculptures en ville. Bon, moi je suis une convaincue en disant que l'art voilà dans la rue apporte vraiment quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours sculpture et puis de la serre qui s'est installée.
Alors voilà pour expliquer un peu le projet de la serre. C'était la ville d'Évreux qui a fait appel à moi pour créer un dessin original. Donc j'avais pu faire une exposition à la Maison des Arts, une sorte de rétrospective qui s'appelait « Dans la forêt profonde ». Et donc je montrais mon travail de sculpture et de dessin. Et ça a été apprécié. Et donc j'ai pu proposer plusieurs dessins à la ville. Et ils ont retenu un qui a été donc agrandi, parce qu'au départ, c'était une feuille A4. Et donc maintenant, la serre tropicale, qui se situe dans le jardin botanique à Évreux, elle est monumentale. Voilà, elle fait 13 mètres de large sur 10 mètres de haut. Donc ce petit dessin, il a bien grandi. Je dis un peu presque comme les plantes tropicales à l'intérieur, ça peut surprendre, ça va très très vite. Et donc ce dessin, il est découpé parce qu'il faut dire, ça c'est un protège-soleil pour les plantes à l'intérieur. Il est découpé dans un matériau en aluminium qui s'appelle Alucobonde et avec une couleur vert qui est changeante selon l'angle de vue, le déplacement et aussi la lumière du jour. Donc c'est très beau à voir. Donc ça fait un découpage qui laisse rentrer suffisamment de lumière pour ces plantes tropicales qui nécessitent quand même beaucoup beaucoup de lumière. Voilà. Et donc cette œuvre-là, elle a été inaugurée en décembre dernier. Et voilà, elle est maintenant intégrée dans le troisième parcours de sculpture organisé par Julie Borel et le Hangar. Et donc ce parcours, il démarre à la gare SNCF d'Évreux et qui va jusqu'au centre-ville. Donc cette œuvre-là, elle est intégrée en tant qu'œuvre pérenne, parce qu'elle va rester au-delà du parcours. Et donc, j'ai pu participer cette année encore. J'ai pu participer au premier parcours, mais cette année encore à cette manifestation dans Évreux, qui est vraiment nouveau et qui est très intéressant, parce que ça fait découvrir Évreux et ça donne beaucoup de vie et animation. D'ailleurs, les jeunes sculpteurs qui sont présents sont vraiment très, comment dire, dans l'échange, dans la recherche. Ils sont tous un message à faire passer. Et c'était magnifique de faire leur rencontre et de s'intégrer dans cette dynamique nouvelle. Et je pense que la ville d'Évreux va peu à peu s'étoffer et avoir des œuvres de plus en plus dans la ville.
D'où on revient à notre notion d'espace, puisque j'imagine que traiter une œuvre dans un atelier ou exposer dans une galerie et puis penser un projet effectivement à une taille 100 fois plus importante, est-ce que cette trajectoire est intéressante et comment on la nourrit effectivement, comment on appréhende cette différence et cet espace ?
Cet espace de la serre,
oui.
Vous voulez dire ?
Oui.
Oui, c'était pas évident, mais j'avais toujours en tête déjà ces plantes. Et pour moi, il faut que ça trotte un moment, pour ainsi dire, un dessin. Je le fais pas une seule fois, même si on peut voir le résultat, c'est juste une feuille, un dessin sur une feuille. Ça mûrit, ça prend du temps, il faut revenir. Et d'ailleurs, il y avait aussi les exigences par rapport à cette serre technique à prendre en charge. Et donc, je suis revenue plein de fois. On a fait aussi le choix de la couleur ensemble avec Atipi et Daniel. Et je suis revenue plein de fois pour ce graphisme, qu'il soit beau, parce qu'il faut qu'il me corresponde. D'ailleurs, les gens, ils disent, oui, c'est vraiment ton travail. Il fallait qu'il soit fonctionnel et il fallait aussi qu'il puisse donc abriter ses plantes et laisser quand même suffisamment de lumière rentrer. Donc, il y avait vraiment, c'est une vraie commande, il y avait vraiment des exigences à ne pas, comment dire, oublier et donc vraiment à prendre en compte.
C'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans votre travail. La chance évidemment de vous voir à la Maison des Arts. C'est vrai que la façon de traiter le bois, vous disiez que la nature vous inspirait, mais est-ce que vous pouvez dire aussi que vos œuvres inspirent les gens qui viennent le voir, parce qu'il y a une façon de traiter le bois ou la matière ou la lumière qui est la même chose que ce qu'on peut retrouver effectivement dans la serre?
Alors, oui, c'est différent, donc mes sculptures de mon travail graphique, parce que là, il y a du volume. Quand je travaille des éléments ou des troncs en bois, parce que ça peut être assez grand, normalement, j'ai un morceau de bois, voilà, que je tourne autour et je réfléchis, ça vient un peu à peu, l'idée. Des fois, assez vite, des fois, non. Et ça se façonne à plusieurs étapes. Donc la grande forme, souvent je couvre de peinture blanche, je regrave dedans. Donc vous voyez, il y a différentes étapes qui font que l'œuvre, elle est assez complexe. Donc il y a une première découverte à distance qui peut donner envie ou pas de s'approcher. Et après, il y a une lecture à proximité. Et il faut donc voilà, se rapprocher et découvrir l'œuvre plus en détail. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Il y a quelque chose de loin, de proche. L'échelle, aussi dans les dessins, on n'est pas toujours au courant quelle est l'échelle. Est-ce que c'est très très grand? Est-ce que c'est tout petit? J'avais fait une fois une exposition qui s'appelait « Voyage au microscope ». Donc ça montrait bien que ça peut être infiniment petit comme ça peut être immensément grand.
Oui, comme la nature. Enfin, j'ai envie de vous renvoyer effectivement à cet amour de la nature, oui. Et effectivement qu'on retrouve et dans votre inspiration et dans votre travail.
Et surtout dans les dessins, il y a des gens qui regardent les dessins qui sont abstraits et qui me disent « Ah oui, ça me rappelle ». Souvent, ce sont peut-être des médecins ou des scientifiques qui se basent sur des visions donc microscopiques, sur des visions vues par satellite, etc. Mais voilà, c'est jamais le cas. Tout est venu comme ça. C'est plus des jeux mathématiques que je mets en forme. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la morphogénèse qui est universel. Et c'est peut-être pour ça, vous dites, ça peut inspirer les visiteurs, c'est peut-être pour ça. Ça leur rappelle aussi quelque chose. À chaque fois, ils retrouvent quelque chose d'eux dans mes sculptures. Et donc, c'est ça qui est intéressant.
Est-ce qu'on peut dire que la sculpture permet un voyage ?
Oui, voilà. Moi, je voyage beaucoup. À chaque fois, je suis heureuse quand je peux sculpter dans mon jardin. C'est vraiment un voyage intérieur, extérieur, tout ce qu'on veut. Et puis souvent, les gens, ce qui me renvoie, ce qu'ils peuvent me dire, les petits commentaires, c'est très enrichissant. Et donc, ça me fait encore voyager plus loin.
Merci beaucoup.
Merci.
Donc, vous avez choisi le deuxième morceau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, j'ai choisi Je reviens, de Eskelina. C'est une chanteuse et compositrice suédoise qui vit depuis assez longtemps en France. Vous me voyez venir, un peu la parallèle. Donc, elle est partie aussi de son pays natal, la Suède, et puis elle a vraiment créé quelque chose de magnifique. Elle chante en français, aussi en suédois. Et j'ai pu la découvrir aussi en live, pas loin d'ici, au petit bar de la mairie, qui se trouve à Saint-Ouen-d'Athèse, qui a une programmation très intéressante et qui l'ont intégrée dans leur programmation. Donc voilà, ça me touche, cette fin.
Donc, nous allons écouter « Je reviens » d'Eskelina.
Les couleurs sont passées, même le noir et le blanc. Tout est entre chien et loup, le jour se lève tard. Il fait nuit tôt, c'est décembre. Le soleil a les paupières mi-closes. Je reviens au pays, je reviens à la maison, je reviens. Mes amis par le train à la morte saison. Le temps a passé tellement vite, vous savez, depuis le jour. Demandez pas, rien n'a bougé, j'ai dû changer, c'est troublant. À présent, il y a une distance, je reviens au pays, je reviens. Je reviens, mes amis, par le train, à la morte saison. Déjà ces lumières, j'imagine qu'il est urgent de chasser le spleen. Je reviens au pays, je reviens à la maison. Je reviens au pays, je reviens à la maison, je reviens, mes amis, par le train à la morte saison. Je reviens, je reviens à la maison.
Nous venons d'écouter « Je reviens » d'Eskelina.
Jacques.
Ouais.
Je voudrais pas me mêler, mais j'ai l'impression que ça sent brûler, non?
Ah bon? Non.
Ah si.
Ah non, non, c'est l'odeur normale, ça.
On va recevoir maintenant Laurent Saval, qui est comédien, metteur en scène, qui a une compagnie de théâtre fil en scène, et on a un petit problème technique. Donc, je le rappelle, puisqu'on avait une interview au téléphone avec lui, parce que malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous en cuisine aujourd'hui. Donc, je vous demande juste, c'est les joies de la campagne et de la cuisine. Donc, Laurent va nous expliquer un petit peu son parcours de comédien.
C'est les difficultés, ce sont les difficultés de réseau. C'est Adèle, tu n'as plus de réseau, c'est ça?
Non, j'ai plus de réseau, tout à fait.
Très bien, tout eh bien nous allons faire le tour de la téléphonie afin de vérifier qui va pouvoir joindre notre invité, Laurent Saval. Il y a quelques instants, nous l'avions au téléphone, ça a l'air d'avoir raccroché,
oui,
a priori.
Oui. Laurent, tu es revenu
eh ben voilà,
parmi
Adèle,
nous.
Adèle, on te laisse poursuivre.
En fait, voilà, c'est un petit problème de réseau, ça a coupé. Donc voilà, nous sommes de nouveau à l'antenne avec vous. Laurent, j'ai présenté un petit peu fil en scène, le parcours, mais vous pourriez nous parler un petit peu du parcours de comédien, du parcours d'une compagnie théâtrale en Normandie et ailleurs, parce que je crois qu'elle a voyagé, cette compagnie. Comment ça se monte un projet comme ça? Comment on devient comédien et comment on devient metteur en scène et comment on prend les rênes d'une compagnie telle que Fil en scène? Ça fait beaucoup, hein. j'ai tout livré.
Effectivement, j'ai un parcours de comédien. J'ai commencé avec le théâtre, j'ai découvert le théâtre avec Catherine Delattre et Maryse Ravera, qui est une compagnie de Rouen, qui m'ont vraiment donné envie d'aimer le théâtre. J'ai ensuite fait le conservatoire de Rouen, et puis je suis parti dans une école nationale à Limoges pendant 2 ans. Et suite à cela, effectivement, j'ai eu envie de me rapprocher d'un théâtre accessible milieu rural. Voilà, parce que j'ai grandi en milieu rural, j'ai senti que je n'avais pas été touché par la culture dans l'endroit où j'ai grandi, en Picardie, et j'ai eu envie effectivement de développer le théâtre en milieu rural. Donc voilà, particulièrement fil en scène, je travaille beaucoup dans la rue également, et je mène beaucoup d'actions culturelles dans les écoles, les lycées, les collèges, afin que les jeunes arrêtent de penser que le théâtre c'est chiant. Voilà, parce que c'est vraiment ce que j'ai comme premier retour, et j'essaie vraiment de leur montrer que c'est une activité qui est justement liée au plaisir, et ça c'est pas toujours évident.
Du coup, est-ce que on peut faire ce parallèle, effectivement, le théâtre c'est difficile en scène, en salle, et c'est ce qui l'amène dans la rue. C'est pour ça ce choix d'amener le théâtre dans la rue?
Non, c'est que moi j'ai eu l'impression que le public dans la rue est plus éclectique, pardon. J'ai plus l'impression de rencontrer tout le monde dans la rue, alors que au théâtre en salle, le public est plus ciblé, plus averti, plus habitué à aller au théâtre. Il y a plein de gens qui adoreraient aller au théâtre, mais qui ne font pas le pas. Et ces gens-là, on les retrouve dans la rue. Et moi, j'aime que le théâtre soit populaire au sens noble du terme. Et c'est pour ça que je m'intéresse aussi davantage au théâtre dans la rue, dans l'espace public.
Donc c'est complémentaire, en fait.
C'est deux théâtres complémentaires. Ah oui, et puis on peut faire l'un et l'autre sans souci. Moi, j'ai la chance effectivement de pouvoir jouer mes spectacles à la fois dans des salles comme la salle de spectacle du Pays de Conches et dans la rue. Et ça me ravit.
Et je vais d'ailleurs compléter, puisque effectivement, nous, on a eu l'occasion d'accueillir les deux, puisque un spectacle de rue avec Matin Brun, et puis un spectacle, enfin même deux spectacles, puisqu'on va parler du dernier spectacle qu'on va accueillir bientôt à Conches. L'idée, je sais que vous travaillez sur aussi la place du clown dans ces spectacles. C'est pour surprendre, c'est une véritable quête, c'est une recherche.
Alors, à la base, c'est vraiment une rencontre avec Cathy Morvan, qui est une comédienne que j'ai d'ailleurs connue au Conservatoire de Rouen il y a très longtemps, qui est une comédienne extraordinaire et qui, s'est intéressée et passionnée par le clown et qui s'avère être également une clown très surprenante, attachante et parce que l'envie de travailler avec Cathy est vraiment présente, alors je me suis intéressé au clown. Et effectivement, ça donne une dimension au spectacle qui est pas du tout habituelle. Et je dis pas que j'en fais ma marque de fabrique, mais en tout cas, on retrouve le clown effectivement dans tous mes spectacles jusqu'alors. Et le public aime ça. Enfin, pour l'instant, je trouve que ça a une résonance très sympa au niveau du public.
Alors, il faut entendre clown, pas comme on l'entend au cirque. Je pense que c'est important de redéfinir un petit peu le rôle du clown, et puis qui est plutôt une mise, comment on va dire, une mise, la dérision ou une mise en perspective de choses tragiques qui peuvent se passer
oui,
sur
alors,
le plateau.
Voilà, moi, exactement. Alors oui, effectivement. Le clown dont on a l'habitude au cirque, enfin, le clown s'est modernisé hein, depuis Chocolat. Il faut vraiment voir que le clown a changé. Et Cathy est une clown vraiment qui est tendre et du public. Et effectivement, moi, ça me permet de créer des liens entre le monde d'aujourd'hui, contemporain, et l'écriture parfois classique que je peux monter au théâtre. Et c'est vrai que ça donne du relief et puis ça transpose les problématiques, parce que finalement, même dans le théâtre antique, on parlait de choses qui sont aujourd'hui tout à fait contemporaines. Et le regard du clown, qui est toujours naïf par rapport à ce qui se passe sur scène, permet finalement d'aller chercher en nous notre propre naïveté et notre regard tendre sur les scènes qui sont en train de se passer.
Au-delà de ça, je dirais aussi qu'il a peut-être un regard naïf, mais il appuie là où ça fait mal.
Aussi. Ah ben, c'est toute la force effectivement de ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que on rit, on se laisse avoir, enfin on se laisse emmener dans un paysage très léger, et pour finalement comprendre dans quelle tragédie il nous a emmenés. Et Cathy, elle a cette force-là, quand elle enlève le nez, de nous bouleverser et voilà, de passer du rire aux larmes, ça fait toujours plaisir en tant que spectateur, je trouve, d'être remué comme ça et de voyager dans les émotions.
La transition est toute faite avec Ibris, puisqu'on a déjà lâché des mots comme tragédie.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dernier projet ?
Alors, l'ubris, c'est un mot grec, voilà, qui reflète un caractère de héros tragique, et qui ressemble, enfin, qui s'appelle démesure tragique, en fait. Et aujourd'hui, ça ressemble plus à l'orgueil. Voilà. Et j'ai choisi ce mot-là parce que l'orgueil des hommes, aujourd'hui, je trouve que ça emmène l'homme vers qui a pourtant des fois des très bonnes intentions vers la catastrophe. Donc en fait, j'utilise des textes antiques de Sophocle pour montrer à quel point l'orgueil des hommes peut le mener à sa perte. Voilà. Ça paraît peut-être un peu complexe comme ça à dire, mais faut pas oublier que mon objectif principal, c'est rendre le théâtre accessible. donc, effectivement, je travaille là-dessus pour montrer que... Parce que Antigone, par exemple, c'est une héroïne qui a souvent été montrée comme une résistante ou une vraie héroïne, quoi. Et moi, en fait, Antigone, je la vois aussi comme une orgueilleuse. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire des actes citoyens au quotidien et être des héros du quotidien sans avoir besoin de brandir, d'aller voir le président et puis lui cracher à la figure pour lui dire que ce qu'il fait c'est nul, que nous ce qu'on fait c'est bien. Voilà, moi je milite pour qu'on puisse être tous des héros au quotidien et qu'on n'ait pas besoin de le faire valoir, qu'on puisse être des héros tous les jours, quoi. Ça c'est une façon d'aborder Antigone qui est un peu particulière. Et Créon également, le roi dans cette pièce est aussi atteint d'hubris, et ça, ben, ça on le sait, et c'est toujours mis en lumière. Donc j'en parlerai pas forcément.
Pour alimenter tout ça, sans en dévoiler trop, mais un petit peu quand même, je sais qu'il y a du mélange de genres dans le théâtre que vous allez proposer. Il y a eu une recherche de musique. Voilà, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus à nos auditeurs?
Bah oui, bien sûr. Moi, je vois vraiment le théâtre comme pluridisciplinaire, quoi. J'aime quand je vais moi-même au spectacle, j'aime bien être surpris, j'aime bien voir les gens danser, chanter. J'aime bien rire, j'aime bien pleurer. Et c'est tout ça que j'ai envie de voir dans Hubris. Donc effectivement, je travaille avec Nicolas Lelièvre, que vous avez invité aussi également avec les aventures du prince Ahmed, je crois.
Oui, tout à fait, il est passé à la salle de spectacle.
Qui est un percussionniste. Et donc là, je lui ai demandé de faire de la percussion urbaine, c'est-à-dire qu'il ne fait que taper sur des morceaux de métal ou des cordes tendues sur lesquelles on a mis des micros ou des morceaux de verre, des choses comme ça. Donc la recherche percussive a été vraiment... je lui ai enlevé sa batterie. Il n'a pas le droit d'avoir un objet qu'on puisse reconnaître. Et donc ça l'a forcé à inventer des choses. Il fait aussi de la musique avec du feu, des choses comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Et j'ai travaillé aussi avec Anne Delamotte, qui est chorégraphe et danseuse, pour donner aussi un aspect... corporel au spectacle. Ça me paraît toujours important que ces petits détails-là soient travaillés, parce que je dis souvent que c'est avec des petits détails qu'on fait des grandes choses. Voilà, et j'en suis persuadé.
Et c'est avec une petite salle qui a tout d'une grande qu'on aura grand plaisir à vous accueillir le 26 mai à 20h. Merci Laurent pour ce moment avec nous.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop, moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop, regarde je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop, moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop,
Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fait des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. Jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde lui de paillettes et me réduit au chaos.
Nous venons d'écouter la fête de trop d'Eddie de Préto, qui est un vrai phénomène en ce moment, et il est passé au Cube il y a une dizaine de jours. Donc voilà, c'est un artiste à découvrir, car il a c'est un personnage déjà physiquement, et en plus il a des très jolis textes avec des musiques entraînantes, et donc voilà, à découvrir.
Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels.
Oui.
Macarons foudroyants.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon. Oh,
le pudding à l'arsenic.
Ah oui.
Et voilà notre dernière partie d'émission, le café gourmand. Pour débuter ce café gourmand, on va avoir l'art à table de la médiathèque. Aujourd'hui, on va vous présenter l'auteur Davin Fuenquinos. Donc, c'est un auteur qui est assez reconnu maintenant. Il a plusieurs gros succès à son actif, dont certains ont été adaptés au cinéma, comme La Délicatesse. Ce livre raconte l'histoire de Nathalie, à qui la vie sourit jusqu'à ce que le drame survient. Et donc nous suivons sa vie après, et particulièrement sa vie sentimentale. Ce roman marque le tournant de la carrière de Fuenquinos. Il a été encensé par la critique, il a été sur la liste de prix littéraires, dont le Renaudot et le Goncourt. Avec le format en poche, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Le succès de Fuenquinos se poursuit quelques années plus tard avec le roman Charlotte, pour laquelle il aura le prix Renaudot en 2014. Donc ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre, morte à 26 ans, victime du nazisme. Ce texte, qui est assez court et qui se lit très vite, a la particularité d'être écrit en vers. Donc c'est ce qui permet d'avoir une certaine fluidité, et ça se lit très très bien. Dans ses dernières parutions, il y a eu le mystère Henri Pic, donc, qui est l'histoire d'une personne qui reprend une bibliothèque, qui a la particularité de rassembler tous les romans qui ont été refusés par les éditeurs. Et il se trouve qu'il y a un manuscrit qui va être découvert et qui, lui, va être finalement publié et rencontrer un très grand succès. Et il y a quelques semaines, enfin, est sorti Vers la beauté, qui retrace une nouvelle histoire de peintre. Avec des personnages à chaque fois très différents, Fuenquinos aborde les relations humaines dans toute la complexité. Et c'est ça qui nous plaît. Donc 18 romans de Fuenquinos sont actuellement à découvrir à la médiathèque ou à redécouvrir.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Eh bien voilà, nous y voilà dans notre panier du jour. On a plein de choses à déguster pour le mois à venir jusqu'à la prochaine émission. Je vous propose tout d'abord un atelier jeune public pour les 8-12 ans qui aura lieu au musée du Vert de Conches, qui s'intitule « Retrouve les objets ». C'est un petit jeu de piste, donc je vous invite à venir découvrir l'exposition Lotz d'une autre façon et accompagné de vos enfants. Il y aura également les nuits européennes où le musée sera gratuit, ça sera le samedi 7 avril. Et il y aura également une démonstration de soufflerie de verre et puis avec la comment on va dire différentes sortes de motifs en fait. À chaque fois, il y a un sculpteur différent, un souffleur et sculpteur différent qui vient au musée du verre. Et cette fois-ci, Nadège Auger, elle gravera des sortes de motifs sur des supports en verre à découvrir. Nous irons ensuite au Comice agricole de Conches, le 10 mai, c'est un rendez-vous très important dans la vie agricole où c'est l'occasion d'aller à la rencontre des éleveurs et effectivement de mettre dans vos paniers tout un tas de choses en direct du producteur. Donc n'hésitez pas, ça va de la petite plantation au jardin, au bon fromage de chèvre, à la charcuterie et j'en passe. Bon appétit. On peut continuer avec un concert gospel qui aura lieu le 25 mai à l'église de Conches à 21h. Et ensuite, n'oublions pas Ibris, puisque nous en avons parlé, qui aura lieu le 26 mai à 20h. Vous pouvez vous renseigner à la billetterie de la salle de spectacle du Pays de Conches. Je voulais revenir aussi sur deux choses un petit peu, on va dire, en dehors de notre panier ou tomber du panier, voilà, qui sont l'éveilleur, qui est un dispositif qui a lieu à Évreux. J'ai eu la chance de faire ma préformation. Je vais veiller en mai, donc je vous raconterai cette expérience unique, mais je vous invite vraiment à participer. C'est un citoyen chaque matin et un autre chaque soir qui vient veiller sur la ville. Donc je trouve que c'est une belle expérience à mener. C'est une première et c'est un moment d'échange et c'est le moyen de participer tous ensemble à un projet commun. Donc c'est un beau moment. Et puis on va revenir aussi sur le parcours sculpture dans Évreux. Myriam, je crois que c'est intéressant d'aller découvrir les œuvres d'abord de Christiane Muller qui était avec nous et puis ensuite de découvrir peut-être d'autres sculpteurs.
Oui.
Voilà, donc on vous invite à découvrir ce parcours sculpture qui a lieu dans Évreux pour un petit moment et c'est toujours intéressant d'aller découvrir sa ville autrement. Voilà, cette émission se termine. Merci à vous, merci Myriam, merci Principe Actif toujours de nous avoir mis le pied à l'étrier, de nous avoir nourris puisqu'on est sur une heure de déjeuner, nous avons bien mangé. On espère qu'on vous a fait partager ces bons petits plats qu'on vous a préparés jusqu'à la prochaine émission qui aura lieu le 29 mai où nous laisserons deux autres personnes animer ce temps ensemble. Merci à vous, à très vite.
Le vivre ensemble pour moi est un peu plus beau, fort que deux, trois mesures dites de discipline ou de règlement intérieur. Et le vivre ensemble, ça passe aussi, et peut-être même surtout, par la culture. La plus belle arme qui soit pour lutter contre le sentiment que l'autre n'est pas pareil que moi. Je ne te comprends pas, donc je ne t'aime pas. Alors que la culture, c'est que je ne te comprends pas, donc je vais m'installer et je vais t'écouter. Parce que ça m'intéresse. C'est ça la culture. I'm tired of the killing snakes. I'm tired of